voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avolété. La voix du peuple, une émission du peuple par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La Voix du Peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La Voix du Peuple.
Fidèles auditeurs et internautes de Radio Avolété, Radio Canal K basé en Suisse, l'émission La Voix du Peuple est à Lomé ce matin, étant le micro de la radio au directeur de publication du bimensuel Togonigban, un journal d'information, d'analyse et également de publicité et de communication de tout genre basé au Togo. Et son directeur, c'est bien sûr José-Éric Gagli, un homme de droit, un homme qui a fait donc le droit. Et donc avec lui aujourd'hui, nous allons aborder les grands sujets de l'actualité togolaise et également le côté juridique de la chose, le combat que se livrent les juristes autour de certains principes que le peuple voudrait bien sûr imprimer au rythme de vécu quotidien, donc de ce beau pays que nous avons tous en partage.
Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais.
Rapidement, Éric José Gagli, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur José Garrigo, bonjour aux éditeurs de Canal K en Suisse et de Radio Avolété bien entendu, et tous ceux qui nous écoutent via l'Internet.
Alors, dites-moi, je rappelais donc que vous étiez juriste et que vous êtes également directeur de publication du bimensuel Togonigban. Dans l'ensemble, comment se portent vos activités?
Je pense que Togonigban aura le 3 mars, 7 ans, jeudi, on se porte très bien. Nous avons pris un moment de pause pour restructurer un petit peu l'entreprise, parce que nous sommes une entreprise en ce moment, nous ne sommes pas justement un journal qui, comme tous les autres, ont juste un récépissé à la hâte. Non, nous sommes une entreprise et nous fonctionnons comme une entreprise, donc Togonigban se porte bien.
Alors, cette année, 7 ans, c'est à fêter.
Ah ben bien sûr, le 3 mars nous ferons un petit clin d'œil à nos amis journalistes togolais et internationaux bien entendu, lors d'une petite soirée, un cocktail, pour se retrouver et partager ensemble.
Alors dites, aujourd'hui nous connaissons tous les conditions dans lesquelles les journaux ou les journalistes du moins travaillent au Togo. Quel est votre secret? Tenir 7 années, 7 ans c'est beaucoup, quel est le secret?
Il n'y a pas de secret, je dirais plutôt qu'il y a ce que j'appellerais de l'envie, ce que j'appellerais de la rage de réussir. Et j'ai souvent l'habitude de dire, quand on veut, on peut. Et quand on met les moyens de sa politique, on réussit toujours. C'est vrai que financièrement, les choses ne sont pas comme au Bénin, comme au Ghana, comme au Burkina, les gouvernements ne nous accompagnent, au Sénégal, etc. Le gouvernement togolais ne nous accompagne pas, et on sait pourquoi d'ailleurs, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais je dirais que d'abord, avant de créer une entreprise, il faut, comme la plupart du temps, un fonds de roulement, quelque chose qui te permet de vivre pendant un petit moment. Et après, avec l'aide de Dieu et bien sûr avec les sponsors, les choses peuvent changer. Donc aujourd'hui, Togonigban se dit fier de lui parce qu'il a mené une bataille de réussite. Et je dis merci. Merci à ceux qui nous ont aidés. Leurs dons, leurs conseils, etc., à réussir. Et je pense que Togonigban bientôt risquerait de devenir un des journaux de référence sur la place togolaise, un journal qui risquerait, comme je viens de le dire d'ailleurs, de référence, et en même temps, on peut changer notre façon de paraître, qui peut devenir un quotidien à l'avenir. Mais pour l'instant, on prend le temps de former une équipe capable, parce que être quotidien, ce n'est pas tout simplement se lever un matin, faire des copier-coller, aller chercher des trucs sur Internet. C'est pouvoir faire des enquêtes, d'avoir des correspondants un peu partout, que ce soit à Lomé, que ce soit à l'international, pour que nous puissions avoir des éléments frais, des news de dernière minute, pour que le public ou le lecteur apprécie.
Alors, l'un de vos rêves, avant d'aller sur le sujet que vous avez, puisque vous l'avez évoqué par rapport à l'accompagnement de l'État, avant d'aller sur cet accompagnement de l'État, l'un de vos rêves, c'était de publier quand même des numéros en langue nationale, notamment en Évé, en Kabyle, en Kotokoli. Où en êtes-vous?
Je peux vous dire que ce rêve est toujours d'actualité. Je viens de dire tout à l'heure que nous sommes devenus une entreprise et on est devenu un bimensuel. Alors pourquoi on a changé subitement d'hebdomadaire en bimensuel? Justement, c'est pour répondre à cette attente. Traduire un journal en ces deux langues, c'est-à-dire en Évé et en Kabyle, ça prend du temps. Ce qui veut dire que le bimensuel nous permettra de refaire les articles parus en français dans ces deux langues. Et là, on aura du temps pour les mettre en place. Ce qui veut dire que si on sort, par exemple, le 1er janvier, automatiquement, le 5, la version de chez nous, c'est-à-dire Kabyle et Évé, sortira une semaine après. Donc, on a le temps de retraduire d'une manière efficiente tout ce qui est dans le journal français. Donc, c'est pour ça qu'on est devenu bimensuel.
Alors, une grande ambition, et vous parliez de l'accompagnement de l'État. Pourquoi dites-vous que l'État ne vous accompagne pas? Parce qu'on parle de l'aide de l'État à la presse.
Écoutez, si vous allez un petit peu au niveau de mes confrères, ne serait-ce que même à la HAC, ce que l'État donne par mois aux journalistes ou au quotidien ou au bimensuel ou aux hebdomadaires, enfin bref, aux journaux par an, est insignifiant par rapport au Sénégal, par rapport au Bénin à côté, dans les autres pays. Comment voulez-vous qu'un journaliste ou un journal de la place puisse survivre, avoir un bureau, avoir des équipes, des rédacteurs, pouvoir se déplacer pour aller aux interviews, etc., etc., de l'argent si l'État nous accompagne pas? C'est pas facile. Tout est lié au travail. Si on n'a pas l'argent, on peut pas faire tout ce que je vous dis là. Donc il faut que l'État comprenne que c'est à eux de nous donner la matière pour qu'on puisse évoluer normalement. Ce qui fait que aujourd'hui, la plupart de mes confrères, je le dis, et cela n'engage que moi, et je suis conscient de ce que je dis, vont dans des conférences de presse, dans des interviews, etc. Parce que ils se disent, quand j'y vais, j'aurai mes petits 5 000, j'aurai mes petits 3 000, parce qu'ils n'en ont pas, et je les accuse pas. Mais si l'État nous met à l'aise, on n'a pas besoin d'aller réclamer ce que vous appelez communément, communiqué final, les 5 000, les 3 000. On n'irait pas pour ça. On irait parce qu'on est fier d'aller prendre des renseignements. On est fier d'aller prendre des informations qu'on doit publier. Et maintenant, les informations que publie, ça fait que le lecteur sait que nous sommes impartial, nous ne sommes pas d'un côté, nous disons exactement ce qu'on a eu comme information sans maquiller. Parce qu'on le maquille, parce que quand on le maquille bien, peut-être un ministre, peut-être le gouvernement dira, voilà, il a bien parlé de moi, je lui donne 5 millions, je lui donne 2 millions. Donc pour éviter tout ça, il faut que l'État nous accompagne pour que ce dérapage, ces écrivains, comme je les appelle, excusez-moi l'expression, de journalistes, puissent se transformer en journalistes, en vrais journalistes.
Alors, on va fermer la parenthèse et tout de suite aborder le côté politique de la chose. Donc, ma question, vous savez, depuis le 19 août 2017, le peuple togolais vit une crise sociopolitique qui a occasionné une vingtaine de morts par balle, deux centaines de blessés par balle, matraques, machettes par ici, gourdins cloutés par là, etc., des centaines de prisonniers. Selon vous, qu'est-ce qui explique l'usage de la violence et des armes sur les populations qui manifestent les mains nues?
Excusez-moi de dire je dis tout simplement... Si on fait l'historique un petit peu des gouvernements qui sont passés, enfin précédents, nous allons comprendre que c'est la même méthode qui continue, mais maquillée d'une manière intelligente. Et Yadema, dans son temps, disait une chose, tu peux tout faire, mais surtout ne touche pas à mon fauteuil présidentiel. Le jeune fort que nous avons estimé est arrivé au pouvoir, nous tous on l'a cru. On a pensé que ce monsieur, en parlant du social, en parlant du développement, en parlant de changer les choses, de ne pas faire comme son papa, nous avons tous cru en lui. Mais finalement, je risquerais de dire qu'il est pire que son papa. Je répète, je risquerais de dire qu'il est pire que son papa. Parce qu'aujourd'hui, imaginez que des manifestants sortent les menus, ne cherchent qu'une seule chose, un changement. Même s'ils disent « fort dégage », même s'ils disent « fort on ne veut plus de toi », c'est de bonne guerre. Je pense que la manière, la bonne manière de mon président actuel, Faure Gnassingbé, de réagir, c'est d'abord d'écouter son peuple, de donner les bonnes réponses à son peuple. Mais au lieu de se donner la peine de nous écouter, d'écouter le peuple, de se donner la peine de parler au peuple, de se donner la peine de comprendre les besoins réels de ce peuple, on nous tue. Alors, les gens manifestent. C'est vrai que dans le jargon policier ou dans le jargon militaire, en général, il y a trois phases. Il y a d'abord la phase où, quand on fait des manifestations, on fait l'encontrement. Il y a la deuxième phase qui consiste, quand vous voyez qu'il y a débordement, on essaye de les concevoir ou de les remettre en place par des jets de gaz lacrymogène ou même d'eau. Ce qui se passe dans tous les pays. Et la phase 3, c'est quand on sent que les manifestants sont des gens armés de fusils ou de d'armes à feu, de tranchées, etc. On les maîtrise d'abord. Et quand la maîtrise n'arrive pas et qu'on sent qu'il y a des coups de feu qui se tirent en l'air chez les manifestants, on peut répliquer, mais attention, par des balles blanches, c'est-à-dire faire tout pour maîtriser la personne et le récupérer. Mais chez nous au Togo, ben non, on manifeste, on tue les gens par des balles réelles. Et après, on dit que c'est la population, on dit que c'est dans les manifestations, c'est parmi les manifestants que ces morts surviennent. Je dis non, c'est dommage, c'est pitoyable, c'est même sanguinaire, comme il a dit lui-même, en disant qu'il vient de découvrir qu'il est un sanguinaire. Effectivement, je peux le dire, et je le dis haut et fort. Je pense que mon ami, que j'estime beaucoup d'ailleurs, a fait l'erreur de se donner l'habit de sanguinaire. Alors, il a encore le temps de se rattraper, il a encore un bon bout de temps pour se remettre à l'ordre, sinon il risquerait d'être vraiment le sanguinaire que lui-même il s'est découvert brutalement à Thiéville.
Alors, est-ce qu'il l'est déjà ou bien il risquerait de l'être? Parce que je le rappelle, on compte quand même de plusieurs blessés, y compris des enfants tués par balles. Et généralement, sur le plan juridique, la grande question qu'on se pose sur un lieu de crime, c'est à qui profite le crime?
Aujourd'hui, je dirais que le crime profite d'abord au pouvoir, parce que c'est le pouvoir, je le dis, qui a occasionné ces morts. Ce qui m'étonne, et vraiment c'est... le Togo est un pays à part entière et entièrement à part. On a l'impression que c'est chez nous que les premières choses arrivent d'abord avant d'être copiées par l'extérieur, par les autres pays. Nous avons eu à déplorer des morts à Dapaon. Les deux jeunes là qui ont été tués lors des manifestations.
Si vous permettez, je vous rappelle rapidement, il s'agit de Duty Sinanling et Anselm Sinanda.
Absolument. Mais le gouvernement, sous la conduite bien sûr de mon ami Yark Damham, je pense, hein, toujours à son poste de ministère, nous a promis des enquêtes, a promis de faire la lumière sur cet assassinat, parce que j'appelle ça de l'assassinat. Ben, on est en quelle année? Ça fait déjà un bon, en 2018. Toujours, l'enquête n'a jamais été bouclée. On n'a jamais eu des répercussions de ce qui s'est passé lors de ces événements atroces à Dapaon. Et on est toujours là. Et je peux vous citer plein d'autres exemples. Des morts dans la mer, à côté de Sarakawa, en parlant de monsieur Atutabobli. Il y a beaucoup de choses qui se passent au Togo et on ouvre des enquêtes et jamais on aboutit. Je prends encore l'exemple à Daulato, le marché qui a été brûlé. On n'a jamais eu l'occasion de savoir qui est le vrai auteur. Alors, un papa dans une maison, quand sa case brûle ou quand il y a un décès dans sa famille, dans sa maison où il n'a pas compris, je pense que le papa se lève et dit « Je veux savoir qui a tué mon enfant, qui a tué mon fils ». Aujourd'hui, quand Faure Gnassingbé se dit, notre papa, président donc, il doit tout faire pour savoir qui a tué ses enfants, qui a tué ses citoyens. Mais il est là, tranquille, et on a l'impression qu'il n'a rien à foutre de ce qui se passe, et il continue sa vie tranquille avec ses soi-disant réformes, soi-disant infrastructures à la con qu'il construit, soi-disant des inaugurations à la con, etc. Excuse-moi l'expression, mais je dis fort, n'est pas à la hauteur de sa tâche. Aujourd'hui, il me déçoit énormément. Donc je dis, en droit, quelqu'un qui commet un crime est passible, je dirais, d'emprisonnement, d'un procès équitable. Et je pense que si mon ami Fort ne fait pas attention, demain, il risquerait d'être devant les tribunaux et pour répondre des crimes de l'État, parce que c'est pas lui qui l'a commis directement, mais c'est sous sa gouvernance, c'est sous son autorité. C'est pour ça que je viens de dire tout à l'heure que s'il fait pas attention, il risquerait de devenir le sanguinaire que lui-même il s'est découvert à Thiéville. Mais s'il arrivait à nous éclairer, à tout faire pour voir qui est coupable de, etc., etc., là, il peut être dédouané. Donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'il a encore un peu le temps pour nous prouver qu'il est de bonne foi.
Alors, prouver de bonne foi, et que dites-vous de sa visite, par exemple, aux militaires, lorsqu'il leur dit en ces termes, je sais compter sur vous. Et quand on sait que ces événements sont survenus au lendemain de l'assassinat, donc, des pauvres populations de Sokolé, de Mango et de Bafilo.
C'est tout à fait normal. Il est venu comme au pouvoir. Monsieur Faure Gnassingbé en 2005 est venu au pouvoir par la force des armes. Est venu au pouvoir un certain vendredi ou je sais plus exactement la date, 5 février en tout cas. Il est venu comme ça et on a vu à la télé togolaise, enfin la TVT, la mère des médias togolaises, mais bon, je dirais la merde des médias togolais, est venu par l'entremise d'un certain ministre que nous appelons Kofi Samaa, le premier ministre à l'époque Monsieur Kofi Samaa, pour nous dire que le président de la République, donc, est décédé. Donc, Monsieur Étienne Gnassingbé et Adéma. Dans la même soirée, et au lendemain, nous avons vu des militaires comme je dis souvent, qui se sont positionnés à la télé pour dire que nous faisions allégeance à un nouveau président et que c'est Monsieur Faure Gnassingbé qui devait être le président. Or, la Constitution nous demande de mettre en place, en lieu et place, quand il y a un décès ou quand il y a indisponibilité du président de la République, le président de l'Assemblée nationale, ce qui n'a pas été fait. Donc, ça veut dire que c'est un coup d'État constitutionnel qui est aussi mis sous silence. Normalement, il devait répondre aussi à ce coup d'État et aidé, bien sûr, par son frère qui est en prison actuellement, M. Gnatidban, qui a été l'un des acteurs de ce coup d'État constitutionnel. Donc, je dis, Monsieur Faure est venu dans le sang et c'est normal, comme vous m'avez posé la question, juridiquement, etc. Aujourd'hui, Monsieur Faure est venu par le sang, donc forcément, le sang le guide, forcément, il fait tout dans le sang et forcément, il ne peut que réprimer dans le sang, d'autant plus qu'il a besoin de ses militaires pour se donner une couverture, il a besoin de ses gendarmes, comme je dis souvent, pour se maintenir au pouvoir. Donc, il utilise l'armée, il utilise les militaires, il utilise la police, bref, tout ce qui est corps habillé pour se maintenir au pouvoir. Bref, nous sommes dans une dictature, contrairement à ce que Monsieur Djerita m'avait dit, nous sommes réellement dans une dictature. Parce qu'une dictature, c'est se maintenir au pouvoir par la force et brimer son peuple, assouvir son peuple, avoir la main mise sur son peuple. Donc, Monsieur Faure Gnassingbé, aujourd'hui, peut être qualifié de dictateur, mais de sanguinaire, s'il arrivait à se dédouaner, là on peut lui enlever ça, mais aujourd'hui c'est un dictateur, nous sommes dans une dictature.
Alors, dites-moi, comment comprendre que le Togo soit toujours dans le spectre d'une crise qui ne cesse d'accoucher? D'accord, recommandations et conclusions, je rappelle que on compte au moins 26 dialogues avec des conclusions, des accords qui n'ont jamais été respectés. Alors, comment comprendre qu'un pays qui dialogue ou qui a plus dialogué que les autres soit toujours dans une crise qui s'aggrave?
Monsieur Rodrigue, je vous le dis et je mesure bien la portée de mes déclarations. Je vous dis, Monsieur Faure Gnassingbé est un menteur. Parce que quelqu'un qui promet ou qui dit « je suis d'accord avec certaines recommandations », quelqu'un qui dit « ok, nous avons trouvé un accord, on va l'appliquer », qui ne l'applique jamais, dans ma langue, on dit « agirato », ce qui veut dire que c'est un menteur. Donc, Monsieur Faure Gnassingbé, aujourd'hui, devient menteur vis-à-vis de son peuple, parce qu'il y a trop d'accords, 21, je crois, hein, qui n'ont jamais été mis à... Enfin, qui a jamais vu d'exécution dans ces accords-là. On dit, voilà, on va faire ci, on va la PG, etc., mais jamais rien n'a été mis en pratique. Donc, si aujourd'hui, on nous dit encore qu'il y a encore dialogue où va sortir un accord entre les 14 de la coalition et le pouvoir en place, je dis, c'est encore un faux débat. Bien sûr, on va leur dire. Alors, ça lui permettra, lui, de prendre du temps. Ça lui permettra, lui, de se refaire la une santé politique, comme je dis. Et on va nous dire, voilà, ne vous inquiétez pas, on va signer un accord, ça va se faire et ça ne se fera jamais. Donc, moi, j'ai dit, le dialogue est déjà mort-né. Je l'avais dit au départ et je le redis encore, c'est un dialogue mort-né. Même si nous y allons, ça va accoucher, bien sûr, des recommandations qui ne seront jamais respectées. Alors, pourquoi la coalition, à mon avis, pose des conditions, des préalables avant dans ce dialogue. Au moins obtenir de lui des garanties et dire au peuple, voilà, il a dit ceci, il nous a promis ceci. On y va pour voir s'il va nous promettre autre chose. Même si on dit aujourd'hui, M. Fornian-Singbe dégage, je vous dis encore, c'est lors de ce dialogue qu'on se comprendre. Arrivé au dialogue, les 14 peuvent dire, écoutez, bon, d'accord, on voulait jusqu'en 2020, ok, on va essayer. Mais tout se fait dans le dialogue. Mais le pouvoir ne veut pas du dialogue parce que ça lui profite. Ça lui donne le temps de se réorganiser. D'ailleurs, il se réorganise avec cette histoire des sages, à Cara, avec bientôt peut-être la jeunesse, des enfants, de unir, des... Donc, forcément, en ce moment, il prend le temps de se refaire une santé politique. Donc, je vous dis, un dialogue au Togo, c'est du déjà vu et que ça n'aboutira absolument à rien.
Alors, depuis quelques semaines, que de polémiques autour donc des responsabilités liées au blocage du dialogue dont vous venez de faire cas. Comprenez-vous ce blocage et selon vous à quoi cela est dû?
Ben, je vous dis, le blocage est tout simplement dû au fait qu'il y a la mauvaise foi de Monsieur Fornian-Singbe. La mauvaise foi vient du fait qu'il veut se maintenir au pouvoir. Donc, en un mot, le blocage vient du fait que monsieur veut rester au pouvoir.
Est-ce que c'est lui qui veut rester au pouvoir ou bien c'est papa qui lui a dit, comme il a dit, de ne jamais laisser le pouvoir?
Excusez-moi, quelqu'un qui est conscient, quelqu'un qui est intelligent, comme je crois qu'il est, il est intelligent d'ailleurs, quelqu'un qui est responsable, quelqu'un qui peut se dire un homme, ne va pas dire « Papa m'a dit de faire ci, donc je le fais au détriment du peuple ». Il va pas me dire que papa m'a dit de rester au pouvoir pour faire souffrir le peuple. Dans ce cas, il est conscient. Dans ce cas, il est même, cette fois-ci, il devient sanguinaire. Parce que c'est pas papa t'a dit de rester au pouvoir que tu vas te maintenir au pouvoir pour faire souffrir ton peuple. Parce que en faisant souffrir ses enfants, c'est comme s'il est, c'est, ça devient de, comment dirais-je, c'est méchant de sa part. Donc, oublions cette histoire de papa m'a dit de rester au pouvoir. C'est con et c'est bête. Je dis tout simplement qu'il est lui-même devenu comme son père, tout simplement parce que tel fils, comme on dit chez nous en Afrique, tel père, tel fils. Donc Monsieur Faure aujourd'hui est devenu comme son papa, il veut rester au pouvoir, et il ne veut pas qu'on touche à son fauteuil présidentiel. Donc c'est ça qui bloque, je dirais, ce fameux dialogue.
Alors que pensez-vous de la médiation de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui n'aboutit jamais au Togo, contrairement au cas des autres pays, récemment de la Gambie, où l'organisation ouest-africaine a été à la hauteur du règlement des différentes crises?
Cette crise est venue à un moment un peu compliqué. Vous le savez très bien que moi, que M. Fornian-Singbe aujourd'hui est président de cette organisation qui est la CEDEAO. Donc, vis-à-vis de ses pairs, évidemment, si la rue le fait partir, les autres diront, ah, attention, si même le président de la CEDEAO arrivait à partir par la rue, donc nous aussi on risquerait de partir par la rue. Donc, vous savez, c'est dans les couloirs, ils se disent des choses, hein. Écoute, mon ami, ne t'en va pas, hein, parce que tu nous mettras mal à l'aise. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Donc, il a aussi des conseils de la CEDEAO, que j'appelle un machin d'organisation, parce que c'est un machin, c'est pas une organisation solide. Donc, ils se font, ils se disent des choses qui se répercutent dans sa gestion de la crise. Donc, M. Fornian-Singbe aujourd'hui est très heureux d'être président de la CEDEAO. Il en profite donc justement pour ne pas dégager ou ne pas faire les réformes ou faire ce dialogue si attendu.
Alors, parlons un peu de l'opposition togolaise qui se livre un combat contre la coalition, situation qui arrange logiquement le régime. Je voudrais parler, vous avez vous-même fait mention tout à l'heure de d'Iritama qui a dit que ce n'est pas un régime dictatorial. Vous avez de l'autre côté Abbas Kabwa du MRC qui lui, avec on ne sait quel appareil, a déterminé les vrais opposants. Alors, cette guerre de l'opposition contre l'opposition, est-ce que ça n'arrange pas le régime?
Ben, écoutez, depuis très très longtemps dans ce pays, nous avons connu ça. C'est-à-dire, le régime fait tout pour utiliser d'autres partis soi-disant de l'opposition pour bloquer les revendications de la vraie opposition. Aujourd'hui, d'abord, je fais une parenthèse. Le Togolais ne sort pas pour Jean-Pierre Fabre. Le Togolais ne sort pas dans les rues pour un certain Tibiat Adam. Le Togolais ne sort pas dans la rue pour un certain Brigitte Adjamagbo. Le Togolais sort dans la rue parce que le Togolais a des besoins. Le Togolais sort dans la rue parce que le Togolais a un problème chez lui, dans son entreprise, dans sa maison, dans le maquis d'à côté, chez la femme qui vend à Imolu, à Pandéor. Nous avons tous un problème social. Nous avons tous besoin de manger à notre faim. Nous avons tous besoin d'avoir le minimum vital pour évoluer dans cette société qu'on appelle société togolaise, la terre de nos aïeux. Mais tout ça, on n'en a pas. Donc forcément, le Togolais sort dans les rues parce que ils ont besoin d'exprimer un manque qui rencontre tous les jours. Ce qu'il rencontre tous les jours, le Togolais a besoin de l'exprimer. Donc c'est pour ça qu'il sort dans la rue. Bien sûr, il y a d'autres qui sortent dans la rue parce que ils revendiquent la C92, je veux dire le retour à la Constitution 92. Ils revendiquent bien entendu le vote de la diaspora qui est nécessaire, etc., etc. Mais les vrais marcheurs, si je peux les identifier comme ça, sont des gens qui ont des problèmes. Nous avons tous des problèmes. Là où je suis, j'ai des problèmes. Si l'État m'accompagnait, je serais pas là dans un petit bureau de 12 mètres carrés. Je serais peut-être dans un immeuble, en tant que Togoniman, dans un immeuble. Mais aujourd'hui, je suis dans un petit bureau parce que j'ai pas les moyens, l'État m'accompagne pas. Donc, nous avons tous des problèmes. Vous avez des problèmes, Monsieur Rodrigue. Le gars qui est en face de moi, Monsieur Joseph Arrodo, qui est donc mon directeur de travail, lui aussi, il a des problèmes. Donc, je peux vous dire que nous sommes dans un État où rien ne va. Le social, ça va pas. La politique, ça ne va pas. Rien, je dis bien, rien ne va dans ce pays. Donc, l'opposition a besoin de s'exprimer. Ça, c'est une chose. Ça, c'est la parenthèse. Maintenant, vous avez demandé pourquoi la guerre qui n'aboutit, voilà, contre l'opposition. Évidemment, diviser pour mieux régner. Excusez-moi l'expression, parce que je mesure mes termes, hein. Excusez-moi de qualifier certaines personnes qui va peut-être pas leur plaire, mais je suis là pour leur répondre. Que ce soit directement un militaire de carrière, que ce soit Abbas Kaboua, que je connais très bien, parce que nous avons fait l'île ensemble, où j'étais étudiant à l'époque, il est égal à sa personnalité. C'est quelqu'un de bouillant, qui ne comprend jamais rien, mais qui profite du vent. Donc, disons que lui, je le mets de côté, j'ai même pas besoin de perdre mon temps à parler de lui. Donc c'est quelqu'un qui est comme ça, c'est sa personnalité. Maintenant, revenons à monsieur directement. Il y a des fois, il parle bien, il explique les choses d'une manière cohérente, mais des fois, j'ai l'impression que, comme le disent les gens, qu'il est un militant ou un parti de tiroir du pouvoir en place, d'ailleurs du régime UNIR. Ça, je n'en sais rien, parce que je n'ai pas les éléments, les preuves pour le qualifier de parti tiroir. Mais il déconne. C'est-à-dire, il sait très bien ce qu'il a comme problème. Lui-même, il a des problèmes là où il est. Je le connais très bien. Donc, j'ai l'impression que ces gens, l'opposition extra-parlementaire, ou ceux qui sont se disent de l'opposition, qui ne sont pas dans la vraie opposition, font un péché à notre pays, font un péché à ma personne, font un péché à l'État togolais. Je pense que c'est ensemble qu'on peut réussir ce combat contre un système et non contre une personne. Ça, je le dis tout le temps. Nous ne faisons pas ce combat contre M. Fornia Simbé, mais nous faisons ce combat contre un système vieux de pratiquement 50 ans. Que ce système change. Nous sommes les seuls mauvais élèves de la sous-région où il n'y a jamais eu d'alternance. Nous sommes, même ce qui m'a étonné la dernière fois dans le pays du fameux dormeur dans des conférences, je veux parler de Zimbabwe, le vieux Bob, on a eu la chance de voir de l'alternance, même si c'est une alternance à négocier, c'est aussi de l'alternance. Si M. Faure pouvait dégager, laisser les autres faire, mais si on voit que non, la gestion de M. Faure est mieux qu'eux, on va le rappeler.
L'expérience du Bénin par rapport à Kérékou.
Absolument. Donc, je dis aujourd'hui que on a en gros un réel problème au Togo et que l'opposition doit tout faire pour se mettre ensemble. Normalement, nous ne devons pas être 14 partis de la coalition qui doivent se regrouper. C'est toute l'opposition, parce que nous avons quand même plus de 200 partis au Togo, hein, que ce soit toute l'opposition qui se regroupe pour combattre un système et non une personne. Donc ça, c'est aussi une gangrène, hein, ces partis d'opposition qui sont alliés au pouvoir, mais dans la nuit. Je dis, ça, c'est une gangrène à notre lutte. Ça, c'est une chose. Et j'anticipe, hein, en disant tout simplement que notre opposition doit changer de tactique. Notre opposition doit changer de communication. notre opposition doit changer de stratégie de combat. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu que le combat de la rue, des marches, ça porte ses fruits. Mais il faut que tout le Togolais, y compris moi, toi, le vendeur de Akpan dont je viens de parler, l'entreprise d'à côté, ses employés, tout ça, tout le monde sorte dans la rue. Et comment ? Il faut une bonne communication. Même s'il faut faire du porte-à-porte, faire comprendre un langage clair pour que le Togolais, le citoyen, comprenne que... ah. On ne défend pas M. Fab pour aller au pouvoir, on défend notre quotidien. On défend quelque chose qui doit être pour nous demain. Donc je pense qu'il y a une autre façon de communication que la coalition doit revoir pour que ça puisse inciter le citoyen, ça puisse inciter le Togolais lambda à sortir dans les rues. Pas pour forcément M. Fab, pas pour Adjamé Web, comme je l'ai dit, mais pour son bien-être.
Alors, José-Éric Gagli, je rappelle que vous êtes juriste, comme je l'avais dit dans l'introduction. Le nœud du problème togolais se rattache à la fameuse portion de phrase « En aucun cas, nul ne peut faire plus de deux mandats ». Quelle est selon vous la portée de ce principe ?
La portée de ce principe est hautement important. Quand je dis que c'est hautement important, c'est que c'est cette petite phrase qui viendra diluer toute la phrase de cette partie de la Constitution. En aucun cas, ça vient faire un blocage à l'envie de se représenter de demain. Si cette phrase n'existerait
pas. De s'éterniser.
Donc, je pense que cette phrase, cette portion de phrase, comme vous le dites, est très importante dans cette constitution.
Alors, d'éminents juristes et constitutionnalistes du Togo pensent que cette phrase n'a pas sa place et plus loin, ils se tirent dans les pattes pour ce qui est du principe de rétroactivité de la loi. Que pensez-vous, vous, en tant que juriste ?
Ben, c'est vrai que la loi n'a pas d'effet rétroactif, ça tout le monde le sait. Mais vous savez, pour le bien-être d'un pays, pour la sauvegarde des acquis d'un pays, pour qu'un pays puisse aller de l'avant, ne serait-ce que pour le bien-être tout simplement d'un pays... Ben, la Constitution est faite par des êtres humains. La Constitution, vrai que c'est la loi fondamentale, mais comment dirais-je, cette rétroactivité, oui, ça peut faire son effet à condition que les juristes de la Cour constitutionnelle se comprennent entre eux. Ben, écoutez, on dit souvent que le président peut démissionner, mais nulle part dans la Constitution on ne demande à un président de démissionner, sauf en cas de maladie, en cas grave,
d'indisponibilité,
etc. Mais le président peut démissionner par la force du peuple. Si demain on arrivait à mettre, je dirais, la moitié des Togolais, 3 500 ou 4 000 dans les rues, à peu près dans les rues, ben ça doit forcer M. Foyan Sibé à démissionner. Ça doit le forcer à tirer les conséquences de cette mobilisation populaire. Donc c'est pour ça que je vous ai dit entre-temps que la coalition des 14 doit changer sa politique, sa communication pour faire sortir autant de monde pour forcer mon président à démissionner. Dans le cas où la coalition mettrait pratiquement 4 000 personnes dehors, s'il démissionnait pas, là, si la communauté internationale se tait, ou si se tait dans j'aurais l'impression qu'eux aussi, ils sont complices de l'état de malaise de ce pays.
Alors, l'autre position qui suscite également des démonstrations aberrantes de la part toujours de ces constitutionnalistes, ça je pèse bien mes mots, c'est le principe de l'immédiateté de la loi constitutionnelle. En votre qualité de juriste, qu'en est-il ?
Vous savez, il y a des juristes qui sont avocats d'un système, de ce système. Ils parlent parce qu'un bon avocat, je suis avocat, j'étais avocat, je ne le suis plus d'ailleurs, quelqu'un qui vient me voir, voilà, je viens de tuer mon papa. Mais fais tout pour que je sorte de ce merdier, ben, je suis prêt à mentir. Je suis prêt à trouver des arguments, des contre-arguments. Parce que la loi, elle est comme ça, mais il y a aussi des contre-arguments qui viennent casser d'autres lois. Je vais trouver tous les moyens constitutionnels, tous les moyens des tests qui régissent le droit pour sortir ce monsieur, justement, de ce pétrin-là.
Y compris des cas de jurisprudence.
Absolument. C'est ce qu'ils sont en train de faire, tout simplement. Donc, tous ces soi-disant éminents juristes de mon État ne font que faire ce que j'appelais un jeu de cache-cache, un jeu de plaisanterie, un jeu de rigolo, je le dis. Donc, moi, je veux même pas m'éterniser sur leur manière de réagir quand on parle de la rétroactivité de la loi, quand on parle de l'effet immédiat de la loi, etc. Ils savent très bien que c'est possible, mais ça dépendra de la manière de le faire. Tout est possible.
Tout est possible, je rappelle bien qu'à l'époque, avec Gilles-Christ Olympiou, la loi a été modifiée parlant de résidence d'un an au moins au Togo, et ça a été appliqué dans l'immédiateté. Et également, de l'autre côté, lorsqu'il s'agissait bien sûr de l'ancien candidat donc Kofi Yamnian, par rapport à son identité qui a été modifiée, ça a été appliqué dans l'immédiat. Et également, en 2005, l'on se souvient que lorsque nuitamment, on a tripatouillé la Constitution. Moi, j'aime particulièrement employer le verbe sodomiser la Constitution. Ça a été employé ou c'est entré en vigueur immédiatement, ce qui a d'ailleurs permis à M. Frogna Simbé d'arriver au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore besoin de poser ce débat du moment où, en matière juridique, cas de jurisprudence, on en a beaucoup?
Je pense que vous venez justement de retourner à ma question. C'est pourquoi je vous dis que c'est possible. On peut faire ce genre de gymnastique si on le veut vraiment. Vous avez donné des exemples. Donc arrêtez de me dire aujourd'hui que on peut pas faire de l'immédiatité, si je le terme, voilà, de cette loi. Non, c'est du n'importe quoi. Ces juristes, soi-disant juristes de mon état, c'est des comédiens. Arrêtons de nous prendre de prendre le Togolais pour un idiot. Nous sommes pas des idiots, nous sommes très intelligents au Togo. Donc qu'on arrête ce débat et qu'on avance, et que monsieur Faure Yassibé sache très bien que lui-même il a été dans l'inconstitutionnalité, si j'ose dire ça ainsi.
L'inconstitutionnalité.
Absolument. Et que aujourd'hui, qu'il arrête de me dire des conneries, quoi. Parce que j'aime pas qu'on dise des conneries. Tout est possible, je vous dis bien. On peut faire de l'immédiateté, excusez-moi, je le dis tout le temps, de cette loi. Arrêtez. Que ces juristes arrêtent de me saouler avec leurs conneries.
Alors, 50 ans, ça suffit, c'est l'un des refrains chantés par les populations à chaque manifestation. Comprenez-vous cette position tranchée des Togolais?
Monsieur Rodira, je pense que vous êtes Togolais. Je le crois, sincèrement. Mais vous êtes venu au monde, ça fait combien d'années? Je ne sais pas, peut-être 30, 40, j'en sais rien. Mais depuis que vous êtes venu au monde, vous avez connu qu'un seul régime, c'est-à-dire le régime Nyasingbé. Je me rappelle, je demandais à mon enfant un jour, quel est le président du Bénin? Bêtement, il me dit Nyasingbé Yadema. J'ai dit, bah, arrête, connerie, ça ne s'appelle pas Nyasingbé. Un président ne s'appelle pas Nyasingbé Yadema. Parce que tellement on a mis dans la tête du citoyen qu'un président doit être Nyasingbé. Vous voyez ce que je veux dire? Depuis 50 ans, il y a des générations qui n'ont connu que ça. Moi, j'ai eu la chance d'arriver au même moment où Nyasingbé Yadema venait au pouvoir. Mais je ne l'ai pas vraiment connu parce que j'étais très jeune. Mais je veux connaître autre chose. Je veux aussi connaître un autre président, comme tous les autres pays. On n'est pas dans un royaume. Alors, dans ce cas, dites-moi tout simplement qu'on change tout. Qu'on dise que nous sommes dans un royaume du Togo, comme le Maroc, j'en sais rien. Et que une seule famille peut gérer les biens de l'État. Dites-moi que nous sommes en Angleterre et qu'on fasse une constitution qui va avec. Mais arrêtez de me dire que nous sommes dans un pays, une république, et faire comme si nous sommes dans un royaume. Nous ne sommes pas dans un royaume. Je dis oui. C'est quand on sache suffit, qu'il dégage. Enfin, je veux dire que ce système dégage et on sera tranquille. Je veux bien que quelqu'un d'autre vienne, qu'il ne le fasse pas bien, qu'on fasse appel à une autre personne. Je n'ai rien à foutre de vos conneries de débats, d'ethnie, Kabier, Eve, Akosso, tout ça, j'ai rien à foutre. Je dis que ce soit un autre président qui vient de Kara, de la région d'Akosso, de Kpalime, etc., qu'il soit le bienvenu, mais qu'on change, qu'on ait une autre personne à la tête de mon pays, parce que les Nyasingbé, c'est pas leur maison, c'est pas leur état, c'est pas un royaume. Donc que ça suffit. Oui, c'est 50 ans, comme disent les gens. Je pense qu'ils ont besoin de le dire, parce que oui, ça suffit. Trop, c'est trop.
Trop, c'est trop. Et de l'autre côté, le régime parle de référendum et s'y prépare activement. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, les conditions sont réunies pour que la solution à cette crise passe par un référendum ou une joute électorale?
Je viens de le dire dans mon précédent journal, Togo Niban, de la semaine passée. Je l'ai dit, à vos marques, prêt, référendum. Monsieur Faure Yassingbé veut sauver sa place par un référendum. Vous savez comment ça se passe les élections dans mon pays. Vous le savez très bien. Forcément, quand on ira au référendum, le pouvoir va gagner. Il y aura 95% de oui. Ça, c'est une évidence. Donc, oublions ces histoires de référendum. C'est tout simplement pour légitimer un petit peu toujours son hold-up, présidentiel. Parce que déjà, il a pris le pouvoir par un coup d'État. Donc, c'est pour se légitimer au pouvoir qu'il fait toutes ces conneries-là. Donc, un référendum, pourquoi faire? Vous savez, vous-même, là où vous êtes, les questions, parce qu'un référendum suppose des questions à la population et une réponse par oui ou par non. Est-ce que là vous êtes, vous savez les questions qui vont être posées? Personne ne le sait. Ils s'activent aujourd'hui en disant que nous sommes en train de mettre la CENI en place, toutes ces conneries-là en place, mais on n'a pas parlé. Nous ne sommes pas mis d'accord sur les préalables, c'est-à-dire le dialogue, j'entends, et vous voulez qu'on fasse référendum pour quoi dire, pour répondre à quelles questions, où ils ont tout préparé déjà, parce que nous avons un système bien huilé, des fraudes électorales. Donc arrêtez, un référendum c'est pour se maintenir au pouvoir. Un référendum qu'ils sont en train de préparer, c'est justement comme je viens de dire tout à l'heure, c'est pour légitimer un petit peu son coup d'état de 2005 et pour se dire voilà, vous avez vu, c'est le peuple qui a dit que tout va bien, que voilà, oui, et voilà, c'est pour casser l'opposition. Donc je dis non, un référendum ne viendra pas répondre aux attentes des Togolais. Un référendum ne viendra pas résoudre le problème des Togolais. Un référendum, c'est juste un jeu. Je dis, il faut un dialogue, une sincérité entre les Togolais, entre l'opposition et le parti au pouvoir. S'asseoir autour d'une table, vraiment se dire les vérités et changer les choses. Toutes ces histoires, référendums, etc., laissons tomber d'abord et allons à un vrai dialogue, pas les dialogues que nous faisons, qu'on s'asseye réellement pour penser les plaies de mon pays.
Alors, vous avez parlé tout à l'heure de peuple. Aujourd'hui, le pouvoir parle de peuple, l'opposition parle de peuple, la société civile a également son peuple. Selon vous, quand est-ce qu'on peut parler de peuple? Et dans le contexte actuel, qui peut parler de peuple selon vous?
Je peux vous dire que, évidemment, que chacun va utiliser le mot peuple pour légitimer ses actions. Le pouvoir en place, unir, utilise le peuple, que nous sommes la majorité, l'opposition, les 14 ou les autres, disent que nous sommes aussi la majorité, la société civile dit que nous sommes majorité, etc. Mais je dis d'abord, avant de parler de peuple, il faut d'abord faire un clin d'œil à la société civile. Parce que la société civile est plus proche du peuple que tous ces loups politiques. Donc c'est d'abord le peuple lui-même se définit par la société civile. Oui, la société civile peut employer le terme peuple. Mais les autres doivent employer le terme d'électeurs. Nos électeurs sont plus nombreux que tels. Nos électeurs, eux, quand ils disent électeurs, je suis d'accord avec eux. Mais quand ils utilisent le mot peuple, je dis, oublions cette histoire de peuple, eux, ils n'ont pas le droit d'utiliser le mot peuple. C'est le peuple, peut-être, comme je viens de le dire, la société civile peut, lui, utiliser le mot peuple.
Alors, parlant toujours de peuple, vous avez fait la nuance tout à l'heure en parlant d'électeurs. Quand on prend par exemple, ou sur le plan comptable, parle d'électeurs, comment comprendre que l'opposition puisse rassembler plus d'électeurs que le parti au pouvoir, mais qu'à l'Assemblée nationale, au niveau de la représentation, la majorité revienne au parti au pouvoir, au régime?
Mais je viens de vous dire tout à l'heure que nous sommes dans un Togo entièrement à part et à part entière. Nous savons faire tous les jeux. Nous pouvons avoir beaucoup d'électeurs, beaucoup de personnes qui ont voté pour l'opposition, mais le jour J, on va nous dire que si c'est 1000 personnes qui ont voté, on nous dira que c'est 200 personnes. C'est un système. Le système, ça y est, tout vient de ce système, séquentenaire, qui sait, avec sa machine, de fraude, il sait tout faire. Donc forcément, évidemment, ça ne m'étonne pas. On peut gagner des élections, comme là, ça s'est passé avec Fabre, où il avait gagné des élections en 2000, je me rappelle plus exactement.
D'abord, il faut rappeler qu'en 2005, il y a eu Bobaki Tani. Voilà. Après 2005, il y a eu 2010 avec Fabre. Voilà. Et 2015, vous savez que les revendications de cette victoire ont marqué le temps plusieurs années, pour ne pas dire 5 ans.
Absolument. Donc, c'est pour vous dire simplement qu'on peut gagner des élections, mais on ne le donnera jamais. Parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour nous l'arracher. Donc, dans l'Assemblée nationale, nous sommes, c'est vrai, minoritaires, mais c'est parce que tout est programmé pour que nous soyons minoritaires, c'est tout.
Alors, une semaine décisive avec la coalition qui annonce 3 jours de manifestation, 31 janvier, 1er février et 3 février. La société civile, parlant de la société civile, bien sûr, je parle du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo qui annonce également des mouvements d'envergure et les enseignants également qui vont manifester leur mécontentement. Est-ce que ça ne craint pas?
Ça craint énormément. Ça, c'est une démonstration de force. Par rapport à Monsieur Fornia Singbe, pour lui dire que on n'est plus dans un problème politique, nous sommes dans un problème social, que nous en avons marre, que les conditions de vie ne sont plus ce que nous avons espéré quand tu étais venu au pouvoir en disant que tu es dans un mandat social. Partout, comme je l'ai dit tout à l'heure, rien ne va. Que ce soit chez les médecins, que ce soit chez les enseignants, que ce soit chez... Partout, rien ne va. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si l'opposition arrivait Je ne parle pas de récupération politique. Hein. S'il arrivait à sortir au moins minimum 3 à 4 000 personnes, là, il comprendra. 4 millions de personnes, pardon, là, il comprendra. Parce que rien ne va. Alors, vous croyez que dans un pays où tout va bien, on va se lever pour dire qu'on a besoin de changer un système au niveau de la santé? Vous croyez que dans un pays où tout va bien, on va dire que voilà, les enseignants sortent dans la rue? Oui, ils vont sortir, certainement. Mais peut-être pour des organisations mineures. Peut-être pour dire que nous voulons juste, je sais pas, augmenter le salaire, etc. Mais là, ils sortent parce que les conditions de vie ne sont pas les meilleures. Ils sortent parce qu'ils en ont marre. Ils sortent parce que rien ne va dans ce pays, dans ce Togo. Je dis bien, rien ne va dans ce Togo. Donc arrêtez de nous dire que tu vas bien. Monsieur Faure, il gouverne qui? Il gouverne les Togolais. Mais ben, qui n'a qu'à entendre le cri des Togolais? Alors j'espère que cette semaine, avec toute cette, cette manifestation qui vont pulluler dans toute dans tout le Togo, puisse le réveiller. Parce qu'il a l'impression qu'il dort. Je sais pas, ou soit il s'est, comment dirais-je, il a pris un coton-tige et puis finalement il y a quelque chose qui est resté dans ses oreilles, il n'écoute plus personne. Qu'il se réveille, je dis bien qu'il se réveille, qu'il entende le cri des Togolais, de la population togolaise. Ah mais non, c'est plus la politique, hein, attention, hein. C'est plus Monsieur Fa, Monsieur Adjamabo, pardon, Derrick Tama, enfin, excusez-moi, Atiku Atadam, qui ça qui vont sortir des gens dans la rue. Mais là, c'est nous-mêmes qui sortons, c'est la population qui sort, c'est les médecins qui sortent, parce que quand les praticiens hospitaliers sortiront, évidemment, ça aura une répercussion sur les malades, une répercussion sur les parents, etc., etc. Et si eux aussi commencent à se mettre dans la rue, disant que voilà, à cause des grèves des agents de la santé, nous aussi on veut qu'on... Vous savez ce que ça va se passer dans ce pays-là? Ça veut dire que ça serait de la bouillabaisse. Donc, si je viens de dire tout à l'heure, au début de notre conversation, que M. Faure a encore le temps de se dédouaner. C'est ce que je veux dire. Parce que là, les semaines qui vont venir seront décisives. Si nous le voulons, ça peut changer cette semaine ou la semaine prochaine. À condition que M. Faure comprenne une chose. Attention, là, ça va fort. Il faut que je change ma politique. Il faut que je comprenne, que j'entende le cri du peuple. Parce que là, ce n'est plus, je vous répète, ce n'est plus les M. Fab ou Adjamabo, les 14, qui sortent des gens dans la rue. C'est maintenant la population qui sort. Donc, que ça devient... qu'il entend le cri de ses compatriotes.
Alors, comme on l'a vu dans d'autres pays, notamment au Burkina Faso avec Blaise Compaoré à l'époque, lorsque la situation était devenue invivable, il est sorti, il a parlé. Et on a vu également en Tunisie, le président a parlé avant d'être balayé finalement par la rue. On l'a vu en Égypte également parler, mais balayé par la rue. Alors aujourd'hui, est-ce que vous comprenez le silence de Faure Gnassingbé? Il ne parle qu'à Jeune Afrique et il ne parle qu'à ses militants ou aux militants du RPT Unir.
Je pense que M. Faure Gnassingbé n'a pas cette force. Quand je dis force, ça veut dire que quelqu'un qui est mal élu, quelqu'un qui est soutenu par l'armée, quelqu'un qui reçoit des conseils de l'armée, quelqu'un qui est dicté, enfin que ses conseils soient dictés par les généraux, etc. Vous croyez qu'il a une facilité de s'exprimer? Il faut qu'il demande des conseils. Il faut à chaque fois qu'il se retourne vers ceux qui l'ont placé à la tête du pays, qu'est-ce que je peux dire? Et si on te dit, ne parle pas, tu parleras pas. Qui me dit que M. Faure ne sait pas parler? Je le connais bien, il parle, enfin c'est quelqu'un qui est un bon vivant. Il sait parler, mais c'est qu'il ne peut pas parler. Il y a une différence. Il ne peut pas parler, mais il pouvait parler, mais là, dans ce cas, il ne peut pas parler. Parce que, avant de parler, il faut qu'il soit entouré de ceux qui l'ont mis sur le fauteuil présidentiel, qui reçoivent des conseils. Là, on lui dit ne parle pas, ben il va se taire. Donc c'est pour ça qu'il garde un mutisme total, parce qu'il sait pas quoi dire, parce qu'on lui interdit. Je dis bien on lui interdit de parler. Je n'ai pas les preuves, mais je sais qu'on lui interdit de parler.
Alors, selon vous, quelle peut être la solution à cette crise togolaise qui perdure, l'opposition qui marche, la société civile dans les rues, également les étudiants qui manifestent leur mécontentement? De l'autre côté également, on a le personnel du ministère de l'administration publique qui également manifeste et le président se tait. Selon vous, quelle peut être la solution à cette crise?
La solution est dans les mains de mon président. La solution est tout trouvée, c'est dans Faure. La seule chose, c'est que Faure dise « Bon, comme De Gaulle l'avait dit entre-temps, je vous ai compris. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Que je parte? Ok, je pars. On verra le reste. Qu'est-ce que vous voulez? Que je sais pas moi. » Il a la solution, Monsieur Faure Gnassingbé. Il est le seul détentrice de cette solution. S'il arrivait à parler au peuple, s'il arrivait à prendre la mesure de ces manifestations, à comprendre que le peuple veut un changement, mais c'est très facile. Qu'ils disent, ben là, je m'en vais, ben je vous laisse faire. Et dans 20 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ben il peut revenir s'il voit que, si les gens voient que, ben attends, à l'époque de M. Florian Sigbé, tout allait bien, ah ben on va le faire appel. Ben, vous croyez dans mon entreprise? Si, je sais pas moi, Kodjo s'en va demain, ou Kokou s'en va demain, j'ai rien à foutre, l'entreprise continue, l'État continue, c'est une continuité. Fort n'est pas le messie du Togo. Qu'il s'en aille. Je dis bien, la solution c'est ça en fait. Que M. Fort Yansipé s'en aille. Et vous allez voir que tout va se remettre en place. Et je l'avais dit entre temps, ça fait très très longtemps, ça je l'ai dit, que M. Fort Yansipé, c'est ça son nom je crois, hein, M. Fort Yansipé porte un mauvais nom à une mauvaise période. Le mot Yansipé là, on est fatigué. Je dis bien, je suis fatigué moi-même là où je suis d'entendre tout le temps Yansipé. Je suis fatigué que mes enfants entendent tout le temps Yansipé. Je suis fatigué que partout j'y vais, c'est Yansipé, Yansipé, Yansipé. Qui s'en aille? Que peut-être monsieur Avoulete arrive, que monsieur Ahonsigbe arrive, que monsieur Solution arrive, je n'en sais rien. Mais qu'un autre nom arrive au pouvoir, qu'on sente un peu le changement. Et si on se rend compte que le régime fort était le meilleur, mais écoutez, on va le faire appel. Mais pourquoi il s'éternise? Parce qu'il sait très bien que quand il s'en va, il ne peut pas revenir, suivant tout ce qu'il avait fait. Donc arrêtez. Monsieur Fort a la solution. Qu'il s'en aille. Point.
Alors, votre dernier mot, en guise d'appel, par exemple, à l'endroit de la classe politique, de la société civile, du peuple togolais, pour que ce pays ne chavire pas.
Mon dernier mot à l'endroit d'abord de Monsieur Fort Yansipé. Je lui dis qu'ils prennent la mesure de la situation de la crise sociopolitique secoue notre pays. Parce que c'est pas une crise politique, c'est une crise sociopolitique. Qu'ils prennent la mesure de cette crise et qu'ils en tirent les conséquences. Et il sait très bien ce qu'il doit faire. Quant au groupe des 14, je dis changer de politique, changer de communication, aller vers le petit peuple, aller dans les quartiers, aller voir, je sais pas moi, dans le petit peuple, hein, dans le quartier, porte à porte, tout ce que vous voulez, changer la manière de communiquer vis-à-vis de ce peuple-là pour que tout le peuple sorte et montrer à M. Fort Yansipé qu'on en a marre. Troisième élément, je dis à mon peuple, je dis à mes concitoyens, je dis à la vendeuse d'Akpan à côté que tout le monde est politicien. Tout le monde a besoin d'avoir un bien-être. La peur, ça n'existe plus. Parce que certaines personnes ne sortent pas par peur. Ne sortent pas parce qu'ils se disent, ah, et n'y est là-bas toi. Excuse-moi de dire dans ma langue, je veux pas sortir parce que si je sors, peut-être quelqu'un va me doigter, on va me tuer, etc.
Je vais perdre mon poste.
Voilà, je vais perdre mon poste, etc. Qu'on arrête ça, qu'on revendique quelque chose, pas pour nous forcément, pour nos enfants, pour la génération future. Donc je dis aux citoyens d'être fermes sur ces revendications. Maintenant je dis aux politiques, à nos hommes politiques, d'être conscients. Je dis à tout la classe politique de défendre ce qui est important pour le peuple togolais. Pas tout simplement, c'est vrai que quand on vient au pouvoir, on vient pour le fauteuil présidentiel, mais que pour l'instant, laissons cette histoire de fauteuil présidentiel, mais pensons au peuple. Faisons tout pour que le peuple soit heureux, que nous ayons dans cette logique-là. Et je pense que c'est la seule sortie de crise qu'on peut avoir, ou c'est la seule manière de que ce bateau, comme vous dites si bien, ne chavire.
Merci beaucoup, José-Éric Gagli. Je rappelle que vous êtes directeur de publication.
Je rappelle que vous êtes
le patron du bimensuel Togo Nigban et toute l'entreprise. Et je rappelle également que vous êtes juriste. Merci pour la disponibilité.
Merci à vous, Monsieur Rodrigo Arrigo, et à très bientôt.
Alors, vous aurez compris, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien, hein, un très long entretien avec le patron du bimensuel Togo Nigban et également juriste de sa personne. Avec lui, nous avons abordé donc les grands sujets de l'actualité sociopolitique du Togo. Vous aurez bien compris l'important dans cette vie, c'est qu'un peuple soit soudé, car la lutte populaire, elle est invincible. Bonne suite donc de nos programmes.
Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avoleté. La voix du peuple, une émission du peuple par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La Voix du Peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La Voix du Peuple.